Chose que je voulais faire, c'était peut-être rappeler qu'est-ce qu'on appelle cellule souche, parce que c'est un terme qui est extrêmement utilisé, et en fait, qu'est-ce que ça désigne? Donc tout en haut, j'ai pas de pointeur là, tant pis, tout en haut, le rond rouge, ça désigne une cellule souche, et par définition, je dirais que c'est une cellule qui a encore un potentiel. Donc, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir choisir de se différencier, de s'engager dans différentes lignées, mais elle n'a pas encore choisi. Donc, c'est ce qu'on appelle le potentiel, c'est-à-dire elle a l'information dans son génome en particulier, de pouvoir produire une grande diversité de cellules spécialisées qu'on appelle différenciées, qui sont représentées ici par cette foule de petits ronds de couleurs différentes. Et en fait, une cellule différenciée, donc qui va forcément être produite par les cellules souches, on en trouve dans tous les tissus de l'organisme, et ce sont des cellules en fait qui sont spécialisées dans une fonction donnée, que ce soit un globule rouge, que ce soit par exemple un neurone dans le cerveau, un hépatocyte dans le foie, etc. Donc en fait, ces cellules différenciées, grâce auxquelles on fonctionne et nos tissus fonctionnent, sont toutes issues à un moment donné de cellules souches. Donc la définition d'une cellule souche est essentiellement ça, c'est une cellule qui va donner en fait une grande diversité de cellules différenciées. La seconde notion, c'est que tout au long de notre vie se succèdent plusieurs types de cellules souches qu'il ne faut pas confondre. Donc la flèche vers la droite, bon, c'est le déroulement de la vie de l'individu. Et en fait, vont se succéder tout d'abord des cellules souches embryonnaires dont on va parler, des cellules souches embryonnaires qui ont pour rôle essentiel de créer un individu à partir d'une seule cellule. C'est quand même remarquable. Donc, elles sont d'abord totipotentes, puisqu'elles vont être capables de faire l'ensemble de l'individu et l'ensemble des tissus. Et puis, au fur et à mesure que l'embryon puis le fœtus se développent, on va trouver des cellules fœtales, donc chez le fœtus, mais ces cellules, elles seront dans chaque tissu, puisque à partir du stade fœtus, puis chez l'enfant, puis ensuite chez l'adulte, les tissus sont faits. Il y a un foie, il y a un cœur, il y a un cerveau, et donc dans ces tissus, il y a des cellules souches. Mais ces cellules souches, elles sont spécialisées dans la fabrication de ce tissu. Donc, chez moi ou chez vous, une cellule souche du cerveau ou une cellule souche dans la moelle osseuse qui fabrique les globules blancs et les globules rouges, elle ne peut faire que ça. Donc, elle est ce qu'on appelle restreinte. Son potentiel est restreint. Elle ne fait que le tissu dans lequel elle se trouve. Et ça, c'est complètement différent des cellules embryonnaires, et je vais y revenir. Donc, en fait, les cellules souches qu'on a chez l'adulte, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont multipotentes, multi et non pas toti ou pluripotentes, elles ne sont que multipotentes, elles sont spécialisées dans chaque tissu. Et en fait, chez l'adulte, il n'y a plus de cellules souches embryonnaires. Il y a des cellules uniquement de ce type-là. Et qui sont, c'est pas le sujet, donc je vais pas le développer, mais vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun problème. Les cellules souches adultes, pour l'instant, en thérapeutique, par exemple, elles sont assez peu utilisées. Donc je dis, elles sont utilisées essentiellement pour les greffes de moelle, donc de moelle osseuse, chez des patients qui ont des maladies hématologiques, hein, des leucémies ou d'autres types de maladies, et elles sont utilisées pour les greffes de peau chez les patients qui ont des brûlures très graves. C'est à peu près tout. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre utilisation vraiment réparatrice de cellules souches chez l'adulte, d'accord ? Et je doute qu'il y en ait beaucoup plus. Donc en fait, c'est pour ça que, en termes médical, on est effectivement à la recherche de cellules souches qui puissent être utilisées d'un point de vue thérapeutique d'une façon beaucoup plus large que ne le sont les cellules souches adultes. Hein. Et c'est ce que j'essaierai de vous montrer avec les cellules souches embryonnaires, ou maintenant avec un autre type de cellules souches que je ne décrirai pas ici, mais vous pourrez aussi me poser des questions si ça vous intéresse, qui sont les cellules souches qu'on appelle reprogrammer, hein, puisque vos professeurs vous en ont probablement parlé, qui est quelque chose d'assez fascinant, mais bon, que je ne développerai pas, mais je peux éventuellement vous en dire un mot à la fin. Donc en fait, je vais me concentrer là sur les cellules souches embryonnaires. Donc, ce que je viens de dire, c'est que finalement, ce qui différencie complètement l'embryon de l'adulte, c'est que chez l'adulte, les tissus sont formés. Et donc, chaque tissu, comme je l'ai dit tout à l'heure, contient quelques cellules souches, mais elles ont un potentiel très restreint. Au contraire, si je regarde ce qui se passe chez l'embryon, je vais y revenir tout de suite, à partir de cette cellule souche initiale qui est finalement l'œuf fécondé, qui est la première cellule réellement souche, cet embryon, il doit former l'organisme entier. Donc il doit former les tissus de l'organisme, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire, mais qui est une tâche très complexe. Donc le potentiel des cellules que je vais trouver chez l'embryon, il est beaucoup plus vaste que celui des cellules dans chacun des tissus de l'adulte, puisque le rôle des cellules qui sont chez l'embryon, c'est de former l'ensemble des tissus. Donc le potentiel d'une cellule souche embryonnaire, c'est elle va avoir la potentialité de former l'ensemble des tissus de l'organisme. D'accord ? Donc on voit déjà une différence fondamentale entre des cellules souches embryonnaires et des cellules souches adultes. Et on peut deviner déjà, en termes d'application thérapeutique, qu'il y a là aussi une différence extrêmement importante. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse à ces cellules souches embryonnaires ? Que sont-elles ? Que font-elles ? Comment est-ce qu'on les obtient ? C'est ce que je vais vous décrire. En quoi elles sont utiles aux chercheurs et éventuellement aux médecins. Et surtout, dans la deuxième partie, quels problèmes posent leur utilisation, et en particulier d'un point de vue éthique. Je n'insisterai pas du tout sur les problèmes médicaux. Et peut-on imaginer d'autres cellules qui ont le même potentiel que les cellules embryonnaires ? Alors, tout d'abord, ce que je voudrais bien vous rappeler, ce que vous savez probablement d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on appelle finalement des cellules souches embryonnaires, d'où elles viennent, qu'est-ce que l'embryon, comment est-ce qu'on les obtient. Donc juste pour rappeler les premières étapes en fait du développement d'un embryon humain, qui commence effectivement par la fécondation, avec ce que vous voyez, les deux ronds au milieu, c'est-à-dire les deux pronucléus provenant l'un du spermatozoïde, l'autre de l'ovocyte, qui vont fusionner pour donner finalement un noyau d'œsène qui a son stock de chromosomes. Et donc ça, c'est la première cellule souche totipotente, puisqu'à partir de cette cellule unique, vous allez former l'ensemble de l'individu. Elle va être à l'origine finalement d'un individu viable, qui va naître 9 mois plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le zygote, l'œuf fécondé. Et puis, pendant les premières heures, en fait, ce zygote va se diviser, et donc en 2 cellules, puis en 4 cellules, puis en 8 cellules, et chacune de ces cellules à ce stade est appelée un blastomère. Et chacune de ces cellules est capable, elle aussi, de redonner un individu entier. Donc c'est pour ça que jusqu'à peu près 72 heures de développement, chaque cellule est totipotente, d'accord ? C'est-à-dire que chacune peut redonner un individu entier. Mais en fait, ça va s'arrêter très rapidement. La totipotence, en fait, va s'arrêter très rapidement, puisque vous voyez qu'entre 72 et 96 heures ou 120 heures, l'aspect de l'embryon change complètement. Et donc, on commence à distinguer différents territoires à l'intérieur de l'embryon qui commencent à se spécialiser, et notamment au stade de blastocyste qui nous intéresse. Vous voyez qu'il y a un petit rond à droite, une espèce de petite masse, un petit agrégat, en fait, qu'on appelle la masse interne. Et ces cellules-là, il y en a à peu près entre 50 et 200, ces cellules-là vont être responsables de la formation de tous les tissus de l'embryon, alors que la couche externe de ce blastocyste va donner ce qu'on appelle les annexes, c'est-à-dire le placenta, qui va permettre à l'œuf de s'implanter. Donc toute cette période-là, de 0 à 5 jours, en fait, elle se passe en extra-utérin, c'est-à-dire que depuis la migration de l'œuf le long de la trompe et l'implantation dans la membrane utérine survient au stade de blastocyste, c'est-à-dire au 5e jour. D'accord ? Et ensuite, l'œuf va s'implanter. Ce qui est en rose ici, c'est le placenta, d'accord ? Donc qui vient de la couche externe du blastocyste. Et puis ensuite, le développement intra-utérin va se passer pour aboutir finalement à un fœtus et finalement à un enfant. Donc pourquoi est-ce que je dis tout ça ? Parce que, en fait, on va tout de suite arriver à définir, j'utilise le terme embryon, mais finalement qu'est-ce que ça veut dire embryon, parce que les termes là ont leur importance. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc en fait, en France, le terme embryon au sens, j'allais presque dire légal du terme, est utilisé dès le stade de l'œuf fécondé. C'est-à-dire que dès que le pronucléus mâle et le pronucléus femelle ont fusionné, on parle à ce moment-là d'embryon en France, c'est-à-dire d'un œuf qui a déjà la potentialité de donner un être humain. Dans d'autres pays, ce premier stade de zygote et les premières divisions sont plutôt qualifiés de pré-embryon. Et dans certains pays, la notion d'embryon en termes d'une potentialité de développer un être humain, dans certains pays, est considérée uniquement à partir de l'implantation dans l'utérus, et voire dans d'autres pays, on verra tout à l'heure, il y a aussi d'autres éléments de définition, de caractérisation de cette notion d'embryon en tant que potentialité de donner un être humain. Donc, cet œuf fécondé a la potentialité, ce terme est important, donc de donner un individu viable à condition qu'il soit placé dans un utérus. Je pense que cette notion est importante aussi, parce que dans le débat éthique, ou dans la notion du statut de l'embryon, est-ce qu'un embryon, par exemple, in vitro, comme on va le voir, qui ne sera jamais replacé dans un utérus, comment est-ce qu'on le considère? Donc, c'est pour ça que c'est important que la potentialité, finalement, de donner un être humain ne peut se réaliser que si l'œuf est réimplanté dans l'utérus. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas insister. Maintenant, comment est-ce qu'on a accès à des embryons humains? Et en fait, comment est-ce qu'au laboratoire, on dérive des cellules souches embryonnaires qui soient utilisables par les chercheurs ou bien éventuellement en médecine? Alors, la source d'embryons humains, elle est, alors il faut bien distinguer deux choses. Ce qu'on appelle un embryon pré-implantatoire, c'est-à-dire avant l'implantation dans l'utérus, c'est-à-dire un embryon qui va être obtenu par une procédure d'assistance médicale à la procréation pour des couples infertiles, et donc par une fécondation in vitro, donc sur laquelle je vais revenir. Donc fécondation in vitro qui va aboutir donc à un œuf fécondé, puis donc au développement, vous voyez, de ce qu'on appelle la morula, qui est cette photo intermédiaire, donc une espèce de petite grappe de 8 cellules, donc en 2-3 jours, puis ensuite au blastocyste. Et lorsqu'il y a un projet parental, dans le cas d'une fécondation in vitro, ce qui est obligatoire, je dirais, pour la décision de fécondation in vitro, il y a implantation dans l'utérus, au stade de morula, donc au stade de petite grappe, d'accord? Et on va voir tout à l'heure, quand il y a des embryons surnuméraires, à ce moment-là, ils sont congelés au stade de petite grappe. Donc ça, c'est l'accès à des embryons qui sont conçus in vitro, avant ensuite d'être réimplantés in vivo. Et une fois que l'embryon est réimplanté, je dirais qu'il devient inaccessible, évidemment. Il peut à nouveau être accessible dans un cas très particulier, qui est celui des interruptions volontaires de grossesse. On est dans un cadre qui est complètement différent, d'accord? C'est un embryon ou un fœtus, bien sûr, une interruption volontaire de grossesse. Donc nous sommes dans le cadre, et c'est important aussi en termes de débat, dans le cadre d'un embryon qui a été séparé de la membrane utérine et qui est donc un tissu mort. C'est-à-dire qu'il n'a plus de potentialité à partir du moment où il est séparé de la membrane utérine, ce qui n'est absolument pas le cas d'un embryon préimplantatoire, puisque lui, il n'est pas encore implanté. D'accord? Donc il y a une différence entre les deux qui est important de remarquer, outre l'âge, évidemment. Alors, la fécondation in vitro, comment est-ce que moi, chercheur, par exemple, je peux dériver des cellules souches embryonnaires? Eh bien, en France, la loi de bioéthique actuelle interdit la recherche sur l'embryon, mais autorise des dérogations. Donc on est dans un système actuel d'interdiction avec dérogation. C'est-à-dire que moi, chercheur, je peux demander à l'Agence de la biomédecine déposer un dossier en disant que j'ai un projet de recherche sur des cellules souches embryonnaires, et l'Agence de la biomédecine examinera mon dossier et me délivrera ou non une autorisation. À partir du moment où j'ai cette autorisation, je m'adresse à un centre d'AMP et je m'adresse à des embryons surnuméraires congelés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand un couple demande une procédure d'assistance médicale à la procréation, il va y avoir fécondation in vitro, que cette fécondation soit faite avec les gamètes du couple ou bien avec un don de gamètes, que ce soit un don d'ovocyte ou que ce soit un don de spermatozoïde. Il y aura donc obtention d'un embryon et cet embryon, en général dans les fécondations in vitro, on en obtient plusieurs, ça peut être de 4 à 5, voire parfois plus. Et donc on ne réimplante dans l'utérus que un ou deux embryons. D'accord ? Donc les embryons surnuméraires, c'est-à-dire qui n'ont pas été réimplantés dans l'utérus, ces embryons vont être congelés. Et donc la congélation peut durer plusieurs années et le couple est interrogé chaque année pour savoir ce qu'il souhaite faire des embryons qui sont congelés. C'est-à-dire, est-ce qu'ils souhaitent poursuivre leur projet parental et éventuellement envisager la réimplantation d'autres embryons, s'il y a eu une première grossesse qui a été un succès, ou bien est-ce qu'ils souhaitent abandonner le projet parental, c'est-à-dire ne plus vouloir utiliser les embryons surnuméraires pour une réimplantation. Et à ce moment-là, ils ont trois choix possibles, soit la destruction de l'embryon, donc on met fin à la conservation. Quand vous mettez fin à la conservation d'un embryon, il est détruit. Soit le don à un autre couple, d'accord, soit le don à la recherche. Et c'est dans ce cas-là, effectivement, qu'on peut avoir accès à des embryons surnuméraires qui ont été congelés dans la mesure où le couple a donné son consentement après avoir été informé de façon très précise de ce qui allait être fait, donne son consentement pour que les embryons surnuméraires soient donnés à la recherche. Et donc, une fois que bien sûr, tout à l'heure, je vais réévoquer les problèmes que ça pose en termes législatifs. Donc, si je continue sur la démarche scientifique, qu'est-ce que je peux faire avec cet embryon ? Donc, cet embryon qui est au stade de blastocyste, eh bien, la question, ce qu'on souhaite faire, c'est dériver des lignées de cellules souches embryonnaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire obtenir un nombre extrêmement important de cellules embryonnaires qui auront gardé le potentiel qu'ont ces cellules qui sont dans cette masse interne, c'est-à-dire de donner l'ensemble des tissus de l'organisme. Donc en pratique, d'un point de vue au laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe la masse interne, ce qui est entouré en rouge en haut, et que bien entendu, ça aboutit à la destruction de l'embryon. Donc ça, c'est la principale question éthique, c'est que si je dérive des lignées de cellules souches embryonnaires à partir d'un embryon, cet embryon est détruit. D'accord ? Donc, ces cellules de la masse interne, donc ce petit agrégat cellulaire, en fait, je le dépose sur d'autres cellules qu'on appelle des cellules nourricières, qui vont fournir un substrat, une espèce de niche, finalement, à ces cellules embryonnaires. Et en fait, je vais attendre souvent quelques semaines et certaines des cellules de cette masse interne vont se trouver bien dans cet environnement et vont commencer à proliférer. Donc elles vont se proliférer, ça veut dire se diviser. Donc elles vont se diviser et finalement former ce qu'on appelle une colonie. Donc vous ne voyez pas individuellement les cellules, mais si on regardait un plus fort grossissement, cette colonie contient probablement entre 100 et 150 cellules. Et chacune de ces cellules est une cellule souche embryonnaire. Donc j'ai une colonie ici de cellules souches embryonnaires. Et qu'est-ce que je fais de cette colonie de cellules souches embryonnaires ? Eh bien, comme elle continue à se diviser, je suis bien obligé de la découper en petits morceaux et chacun des petits morceaux, je vais recommencer. Je vais remettre ce petit morceau sur à nouveau des cellules nourricières et à nouveau, chacun de ces petits morceaux va me refaire une colonie. Et je peux faire ça ad vitam aeternam. Donc, j'ai des cellules qui se divisent de façon indéfinie. Donc, j'ai donc ce qu'on appelle une lignée de cellules immortelles J'ai une lignée immortelle de cellules, et chacune de ces cellules est une cellule souche embryonnaire. Donc, de cette façon, à partir, et je peux tout à fait congeler dans l'azote liquide ces cellules souches embryonnaires, les redécongeler un an après, elles auront gardé toujours le même potentiel. Donc en fait, j'ai cet outil cellulaire remarquable. On ne comprend pas très bien d'ailleurs comment ça se passe, mais qu'à partir finalement de la masse interne d'un blastocyste, je peux obtenir une lignée immortelle de cellules souches dont pratiquement chacune a gardé le même potentiel que les cellules qui sont dans cette masse interne. Et ce potentiel qui est absolument extraordinaire, c'est de pouvoir donner l'ensemble des tissus de l'organisme. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la pluripotence. Alors, il y a quelque chose d'essentiel dont il faut se souvenir, c'est que ces cellules-là, elles sont issues de la masse interne du blastocyste. Elles ne sont plus capables de donner des cellules qui forment le placenta. Donc, elles ne sont pas totipotentes. D'accord ? Si vous voyez écrit quelque part dans les médias ou dans les journaux que des cellules souches embryonnaires, des lignées de cellules totipotentes, non. Il n'y a pas de lignée de cellules totipotentes. Il n'y a que des lignées de cellules souches embryonnaires pluripotentes qui sont capables de donner tous les tissus à l'exception du placenta. Et donc, de toute façon, il est totalement impossible que les cellules qui sont dans cette colonie puissent, d'une façon ou d'une autre, me redonner un embryon. Ça, c'est complètement exclu. Donc on est en fait, et parce que c'est important, je pense aussi dans la réflexion du débat éthique. Donc en fait, ces cellules souches, elles peuvent me donner les cellules différenciées de certains tissus, elles ne pourront jamais me redonner un embryon. D'accord ? Alors, cette propriété extraordinaire de ces cellules, c'est-à-dire qu'à partir d'un embryon, j'ai obtenu des cellules, une lignée immortelle de cellules souches, et si maintenant, donc, ce potentiel, il est extrêmement important, mais pourquoi ? Parce que quand vous prenez un blastocyste, si vous regardez l'évolution de cet embryon, une fois qu'il est implanté dans l'utérus, eh bien, la masse interne qui est en rouge, là, elle va donner ce que vous voyez au milieu, c'est-à-dire les trois feuillets A, B et D. Ce sont les trois feuillets germinaux dont on vous a probablement parlé, les trois feuillets embryonnaires qu'on appelle le mésoderme, l'ectoderme et l'endoderme. Donc c'est le début de la spécialisation des cellules de l'embryon. Et ensuite, ça va donner tout ça, l'ensemble des tissus. Donc mes lignées de cellules souches que j'ai dérivées, elles sont avant cette spécialisation. Donc elles ont gardé toute l'information nécessaire pour donner tous les tissus qui vont dériver en fait de ces trois feuillets embryonnaires. Et c'est pour ça qu'elles sont infiniment plus intéressantes en termes de potentiel. Par exemple, elles ont un potentiel beaucoup plus vaste que des cellules souches adultes dont je parlais tout à l'heure, qui n'ont absolument pas ce même potentiel. Donc là, c'est juste une diapo fouillie, mais extrêmement dense, mais justement pour vous montrer tous les tissus qui dérivent de ces trois feuillets, endoderme, ectoderme, mésoderme. Donc il y a tout le système digestif, il y a tout le système musculaire et tout ce qui font les vaisseaux, et puis il y a tout le système de la peau et du tissu nerveux. Donc en théorie, ces lignées de cellules souches embryonnaires sont capables de me donner l'ensemble des cellules différenciées de ces tissus. Et de fait, les tissus que j'ai entourés en vert, c'est effectivement ce qu'on est capable de faire actuellement au laboratoire en termes d'obtention de cellules différenciées. Ce que j'ai entouré ici en bleu, j'aborderai pas ce problème-là, c'est ce qui peut éventuellement poser problème, c'est-à-dire, et il y a quelques articles qui commencent à le décrire, c'est est-ce qu'on peut obtenir des gamètes à partir de ces cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovocytes, donc qui est une question qui, elle aussi, ouvre tout un champ de discussion éthique. Donc je ne vais pas entrer du tout dans les détails de la possibilité de différenciation, parce que ça nous emmènerait trop loin. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que l'utilise en termes d'intérêt thérapeutique, parce que c'est aussi une notion qui est importante lorsqu'on utilise des cellules souches embryonnaires, c'est que qui est un matériel très particulier, comme on va le voir, c'est qu'il faut qu'il y ait une utilité thérapeutique. Donc il faut qu'il y ait un projet thérapeutique qui soit actuellement, dans les termes de la loi française, qui soit associé à un projet scientifique pour que l'autorisation de travailler sur ces cellules souches embryonnaires soit donnée. Donc quel peut être un projet dans le domaine médical que peut offrir ces cellules? On pense immédiatement à la réparation de cellules malades. Effectivement, il y a des essais thérapeutiques qui viennent de commencer, notamment aux États-Unis, peut-être en France bientôt, utilisant ces cellules. Je vais vous donner deux exemples. Et puis, il y a deux autres exemples dont je ne parlerai pas. Il y en a un qui est qu'on peut aussi modéliser des maladies à partir de certaines cellules souches embryonnaires, notamment si on utilise des cellules qui sont dérivées d'embryons pour lesquelles on a fait un diagnostic préimplantatoire parce qu'il y a une maladie génétique grave dans la famille. Donc si un des embryons est porteur d'une mutation, évidemment, il ne sera pas réimplanté. Et dans ce cas-là, on peut dériver des cellules souches qui seront elles aussi porteuses de la mutation et qui peuvent servir de modélisation de la maladie. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi la maladie donne telle ou telle symptomatologie. Et il y a une autre troisième application qui est dans le domaine pharmacologique, d'essayer de trouver de nouveaux médicaments en utilisant ces cellules. Alors, où est-ce qu'on en est, juste en deux diapos, en termes de parce que ça fait aussi partie du débat finalement, en termes de utilisation d'un point de vue réparation, donc en greffe, disons en transplantation. Bon, il y a deux essais pour vous donner un exemple thérapeutique qui viennent de commencer avec ces cellules souches embryonnaires. Or, il faut rappeler que ça a pris quand même pratiquement 13 ans, puisque les premières lignées de cellules souches embryonnaires ont été dérivées en 1998, et que le premier essai thérapeutique a commencé en octobre 2010. Donc c'est un essai, par exemple, dans des traumatismes de la moelle épinière. Donc vous savez, ça peut être des accidents de la route ou quelqu'un qui tombe d'un toit. Donc il y a une lésion de la moelle épinière et qui, du coup, en général, a comme conséquence une paralysie. Et c'est dû au fait qu'il y a une rupture de l'axone, donc du prolongement du neurone, qui fait que l'influx nerveux n'est plus conduit jusqu'au muscle. Et donc, l'idée là, c'est est-ce qu'à partir de cellules souches embryonnaires, je peux dériver des cellules qui vont aider à la réparation de cet axone, et ces cellules, on les appelle oligodendrocytes. Ce sont des cellules, ça, vous l'avez sûrement appris aussi, qui synthétisent la gaine de myéline qui est autour de l'axone et qui permet à l'influx nerveux de passer. Donc, est-ce que je peux dériver des oligodendrocytes à partir de cellules souches embryonnaires? La réponse est oui. Et est-ce que je peux éventuellement aider ces patients en injectant ces cellules au niveau de la lésion de la moelle épinière? Donc ça, c'est ce que pose comme question l'essai clinique, je n'ai pas la réponse, mais c'est un des exemples d'application, et il y a un premier patient qui vient d'avoir cette utilisation. Il y a un second essai qui est aussi un essai dans une autre maladie qui touche la rétine, qu'on appelle la dégénérescence maculaire, où je ne veux pas du tout assister, mais où il y a des cellules de la rétine, notamment les photorécepteurs, qui sont malades. Et là aussi, dans cette maladie qui rend aveugle, en fait, est-ce qu'on peut utiliser des cellules qui ont été différenciées à partir de cellules souches embryonnaires pour essayer de stopper la maladie ou peut-être restaurer un peu de la vision? Donc voilà deux exemples, il y en aura probablement d'autres, je ne sais pas quels en seront les résultats. Donc maintenant, en fait, après vous avoir un peu montré quelle pouvait être l'application, le problème des cellules majeures, des cellules souches embryonnaires, c'est effectivement les problèmes éthiques que ça peut poser, indépendamment des autres problèmes sur lesquels je n'insisterai pas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sources possibles d'embryons que les embryons obtenus par fécondation in vitro? La réponse est théoriquement oui, en pratique non. Théoriquement oui, puisque vous savez sûrement qu'à un moment donné, on a beaucoup parler du transfert nucléaire, ce qui avait été improprement appelé le clonage thérapeutique à un moment donné. Je vais juste vous décrire ce que c'est, mais actuellement il n'y a aucune lignée de cellules souches embryonnaires qui ait été obtenue de cette façon-là, mais ça pose d'autres problèmes. Il y a aussi la parthénogenèse, mais c'est quelque chose de très marginal. Et puis il y a cette technique très récente où on peut, à partir d'une cellule adulte, faire réacquérir à cette cellule adulte des propriétés de cellules souches embryonnaires, des propriétés de pluripotence. Donc ça, on peut en parler dans la discussion si ça vous intéresse. Donc, en France, à l'heure actuelle, donc ça, c'est les deux possibilités d'obtenir des embryons à partir desquels, en théorie, on pourrait dériver des cellules souches embryonnaires. Donc, c'est les embryons qui sont obtenus par fécondation in vitro, je viens d'en parler. Donc, ce sont des embryons qui ont été obtenus avec un projet parental initial et abandon du projet parental, puisqu'il y a eu une première grossesse qui a été obtenue avec succès. D'accord ? Et puis, il y a cette deuxième possibilité par le transfert nucléaire. Dans cette deuxième possibilité, ce qui est extrêmement important, c'est que il ne s'agit pas d'embryons obtenus par fécondation entre gamètes, premièrement, puisqu'il s'agit d'embryons qui ont été obtenus par transfert nucléaire dans un ovocyte, je vais y revenir. Deuxièmement, dans cette partie-là, il s'agit d'embryons qui ont été obtenus parce que le couple a été à travers une procédure de fécondation in vitro et qui avait un projet parental initial. Dans cette catégorie ici, il n'y a pas de projet parental puisque, évidemment, il n'y aura jamais de réimplantation. Donc, en fait, on est devant une situation qui est une discussion éthique importante, qui est, est-ce que je peux être autorisé ou quel problème cela pose à créer un embryon qui ne sera jamais destiné, finalement, à donner un être vivant, qui ne sera jamais réimplanté. Donc, en fait, on est là devant une réflexion entre une utilisation d'embryons surnuméraires initialement créés pour un projet parental et, d'un autre côté, une réflexion sur comment est-ce que je considère le problème d'une éventuelle création d'un embryon dont je sais au départ qu'il n'y aura pas et qu'il n'y a pas de projet parental. Donc, juste pour vous rappeler que cette création d'embryons pour la recherche sans projet parental est complètement interdite en France, que ce soit par transfert nucléaire ou que ce soit par fécondation. Et que la seule possibilité actuelle en France, qui est interdite avec dérogation, étant d'obtenir des embryons surnuméraires après fécondation in vitro. Alors, juste pour vous rappeler ce que c'est que le transfert nucléaire, le clonage thérapeutique, parce que ça a été beaucoup débattu il y a 4-5 ans. Maintenant, je pense que l'intérêt est beaucoup moindre depuis quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voulait dire prendre un ovocyte, ce qui est tout en haut, la cellule qui est tout en haut. Cet ovocyte a un noyau. Donc, si j'enlève le noyau de cet ovocyte, je peux mettre à la place le noyau d'une cellule qui est ici en haut, un fibroblaste, le noyau d'une cellule qui proviendrait d'un adulte, quel qu'il soit, de vous, de moi, par exemple. On prélève un fibroblaste de peau, on prend le noyau du fibroblaste de peau et on le met à la place du noyau de l'ovocyte. Et après, on fait un choc électrique à cet ovocyte qui interprète ça, parce qu'après tout, c'est jamais qu'une cellule qui interprète un stimulus de l'environnement. L'ovocyte va interpréter ça comme un signal de division cellulaire. Et un ovocyte qui se divise, et dans lequel on a mis un noyau, il commence à faire des divisions qui sont faites pour faire un embryon. Donc, en fait, cet ovocyte va effectivement commencer à se diviser et à former un embryon. Et donc, à former une morula, un blastocyste, etc. C'est ce qui a été fait avec la brebis d'Oly. C'est ce qui a été fait aussi à l'INRA avec des vaches, c'est ce qui est fait avec des souris, etc. Donc, dans le cas des mammifères, quand on obtient ce blastocyste après transfert nucléaire, on peut le réimplanter. et on obtient effectivement un animal, un clone, hein, entre guillemets, d'accord ? Donc, cette première partie peut aussi aboutir à autre chose, non pas au clonage reproductif, qui est de toute façon complètement interdit chez l'homme, mais on peut aussi prendre éventuellement ce blastocyste et dériver des lignées de cellules souches embryonnaires, d'accord ? Qui, à ce moment-là, auraient le potentiel génétique du donneur de fibroblastes. C'est ce qui avait été imaginé il y a 4-5 ans pour pouvoir avoir des lignées de cellules souches embryonnaires qui soient compatibles avec chacun des patients. D'accord ? Donc, outre que c'est complètement... je pense que ça n'est pas réaliste, mais surtout, cette démarche scientifique n'a jamais abouti. Il n'y a pas une seule lignée de cellules souches embryonnaires humaines qui a été dérivée de cette façon. Et je pense que, effectivement, les recherches actuellement sont très faibles dans ce domaine. Néanmoins, chez l'animal, bien sûr, on a pu cloner plusieurs types de mammifères. Donc ça, c'est le transfert nucléaire. Donc, ce transfert nucléaire a été source d'énormément de débats, si vous vous souvenez peut-être, vous avez probablement discuté d'ailleurs, et les débats étaient les suivants. Premièrement, la source d'ovocytes peut poser un problème, parce qu'il faut des femmes qui donnent des ovocytes, que ça n'est pas du tout anodin, et qu'il y a un risque évident de marchandisation et de trafic. La deuxième chose, c'est qu'on revient toujours à ce problème que je vais aborder, qui est celui du statut de l'embryon qui aurait été créé par transfert nucléaire, puisque ce statut de... Comment considère-t-on un embryon qui est créé de façon complètement artificielle et qui ne sera jamais destiné à être réimplanté? Et puis, il y avait aussi à l'époque la discussion sur le risque du clonage reproductif. Alors, le transfert nucléaire est autorisé dans certains pays, mais comme je vous disais, d'un point de vue scientifique, actuellement, il y a quand même assez peu de recherche qui est faite dans ce domaine. Juste pour... parce qu'après tout, ça peut aussi alimenter la réflexion. Quand il y avait eu ce débat sur l'utilisation des ovocytes, il y avait en Angleterre des chercheurs qui avaient... suggérer, au lieu d'utiliser des ovocytes humains, donc de femmes, d'utiliser des ovocytes de mammifères non humains, en particulier de vaches ou de lapins. Et donc, dans ce cas-là, le transfert nucléaire aurait été fait dans ces ovocytes de vaches ou de lapins, mais dans la mesure où le noyau de l'ovocyte avait été enlevé, on obtenait un embryon qui était quand même un embryon humain, puisqu'on aurait transféré le noyau d'une cellule humaine dans cet ovocyte de vache ou de lapine, d'accord ? Donc on arrivait à des situations difficiles d'un point de vue éthique, et cette démarche n'a pas non plus abouti à l'obtention de cellules souches embryonnaires. Donc ce débat sur le transfert nucléaire maintenant est un peu n'est plus tellement d'actualité, essentiellement à cause de ces nouvelles cellules reprogrammées qui sont apparues. Alors, pourquoi une réglementation éthique pour la recherche sur l'embryon ? Donc, je vais vous donner juste là, dans la dernière partie, les éléments de réflexion. J'ai évidemment pas de réponse. Donc, moi, je raisonne, je pose les questions en tant que scientifique. Hein, je ne suis pas philosophe et je n'ai pas de compétences en bioéthique particulières. Je suis simplement, effectivement, je m'interroge sur le sujet comme beaucoup d'autres personnes. Donc, premièrement, les problèmes qui sont posés par la recherche sur l'embryon, c'est essentiellement le fait que lorsqu'on dérive des cellules souches embryonnaires, il y a une destruction de l'embryon. Deuxièmement, effectivement, on peut se poser la question de ce que pourrait signifier la création d'embryons spécifiquement pour la recherche sans projet parental associé. Par exemple, est-ce qu'on pourrait autoriser de faire une fécondation in vitro qui ne serait pas destinée à faire un enfant, mais qui serait uniquement destinée à créer un embryon pour la recherche? Donc c'est le problème de la création d'un embryon sans projet parental. Et donc tout ça aboutit à la question du statut de l'embryon, c'est-à-dire que représente un embryon On va voir que c'est très compliqué à résoudre comme question. Est-ce que c'est un être humain potentiel, comme le définit le code civil actuellement, ou bien est-ce que c'est simplement une masse cellulaire qui n'a pour l'instant pas d'autre identité? Donc, et là, il y a une grande diversité de réflexions, non seulement à l'intérieur de notre pays, mais ça, je sais que vous en avez déjà débattu, mais aussi dans d'autres pays. Et puis, il y a d'autres problèmes que pose effectivement la recherche sur l'embryon. Donc, l'utilisation d'ovocytes, on vient de le voir. Et un autre problème que je n'aborderai pas du tout, mais qui est celui aussi de l'usage commercial des dérivés des cellules souches embryonnaires, qui est quelque chose qui est pour l'instant assez flou encore. Alors, comment est-ce qu'on peut finalement réfléchir sur la notion du statut de l'embryon? Est-il légitime de faire des recherches sur l'embryon ou non? Et comment est-ce qu'on considère un embryon au stade préimplantatoire? Est-ce qu'on considère que c'est un être humain ou une personne? Et en quel cas, est-ce qu'il faut lui attribuer les droits dont tout être humain peut se prévaloir? Ou bien, est-ce que c'est un amas de cellules? Et dans ce cas-là, il y aurait moins de restrictions à leur utilisation. Et la question qui est aussi... qui peut être inclus dans la question précédente, c'est quel rôle pour le projet parental dans le statut de l'embryon? C'est-à-dire, est-ce qu'un embryon qui a un projet parental doit être considéré différemment d'un embryon qui n'a plus de projet parental? Est-ce que le statut de l'embryon change selon que le projet parental n'existe plus? C'est-à-dire, si le couple ne souhaite plus, réimplanter l'embryon et fait un don à la recherche? Alors, quels sont les différents éléments qui entrent en jeu dans la réflexion et qui font que la réflexion est très complexe? Eh bien, il y a des éléments scientifiques, il y a des éléments de morale, de religion, de philosophie et de droit. Tout ça aboutissant à finalement une réflexion qu'on englobe sous le terme éthique et qui ont abouti effectivement à essayer d'obtenir finalement dans un pays comme la France par exemple, mais dans d'autres pays aussi, un consensus qui soit acceptable par tous, ce qui est extrêmement difficile, comme on peut le voir même dans les débats actuels de la révision de la loi de bioéthique, ou comme on l'a vu précédemment, ou comme vous l'avez certainement vu aussi dans la discussion des états généraux de la bioéthique. Je pense qu'il est intéressant de regarder à ce propos quels sont, parce que c'est quand même un des arguments importants, quels sont en fait les notions religieuses, les éléments de réflexion qui proviennent de la réflexion des notions religieuses à ce propos. Et c'est intéressant de regarder comment est-ce que la religion juive ou l'islam ou la religion catholique considèrent finalement cette notion d'embryon, parce que ça finalement détermine aussi pas mal de réflexions à ce propos. Donc pour la religion juive, en fait, le statut d'être humain est acquis progressivement et en fait, il n'est pas acquis dès la fécondation. Mais en fait, jusqu'à 40 jours, l'embryon finalement c'est de l'eau. Ça n'est pas réellement, il n'existe pas vraiment. Et donc en fait, il y a donc une différence fondamentale entre l'embryon in vivo qui est implanté et l'embryon in vitro. Et donc l'utilisation à des fins de recherche des pré-embryons dans ce cas-là ne pose pas un problème majeur dans cette religion, à condition, et ça on le retrouve quand même à peu près partout, qu'il y ait une intention thérapeutique, ou qu'il y ait une intention en tout cas de bien pour l'humanité, hein, ce qui est inscrit et ce qui est quand même commun à pratiquement toutes les religions. Pour l'islam, on n'est pas si loin finalement, c'est-à-dire que pour le Coran, le développement de l'embryon et du fœtus passe par différentes étapes, il y en a 7 qui chacune dure 40 jours. Et en fait, ce qui est important dans ce cadre-là, alors je ne suis pas du tout compétente ni spécialiste, hein, je me fonde sur des discussions que j'ai eues ou sur des lectures. Donc c'est que, en fait, ce qui est important, c'est l'insufflation de l'âme. Et ça survient, alors là il y a aussi des divergences, mais en tout cas au-delà du 40e jour. Donc là aussi il y a cette notion de 40e jour qui fait qu'avant 40 jours, finalement, l'embryon a un espèce de fonctionnement automatique involontaire et qu'en gros c'est une enveloppe vide. Et donc là aussi, du coup, à condition qu'il y ait une intention thérapeutique ou une intention de bien pour l'humanité, il n'y a pas d'opposition réelle à l'utilisation d'un embryon en recherche. En revanche, effectivement, pour l'Église catholique, le point de vue est différent dans la mesure où dès la conception, c'est-à-dire dès l'œuf fécondé, on parle d'embryon et non plus de pré-embryon. Et en fait, dès la conception, il y a un être humain, en fait, en potentiel, qui n'est pas un objet disponible et qui ne doit pas être traité comme une chose. Et donc, en fait, chaque embryon, selon la religion catholique, doit avoir la possibilité de se développer en un être humain. Et c'est ça, essentiellement, quand même, qui pose problème pour l'utilisation en recherche. Alors, les anglicans sont un tout petit peu moins restrictifs dans la mesure où il y a une certaine limite de 14 jours en deçà de laquelle l'embryon n'est pas vraiment considéré comme une personne. Donc, vous voyez déjà la grande diversité qu'il peut y avoir dans la façon dont on considère en fait l'embryon et donc le statut de l'embryon. Et puis il y a un autre mode qui est celui du droit français. Donc pour le droit, qui est quelque chose de complètement différent de la réflexion religieuse, pour le droit, c'est-à-dire pour le code civil français, il y a deux catégories, il y a les choses et il y a les personnes. Et pour le droit français, la personne, la notion de personne ne s'applique qu'à un individu qui est né viable. Donc l'embryon, en gros, n'existe pas vraiment pour le droit français. Donc juridiquement, c'est vrai que c'est pas très simple à raisonner, dans la mesure où l'embryon n'est ni une personne, ni une chose. Donc c'est un être humain potentiel. Ça ne nous donne pas de clé, je dirais, pour l'application de la loi, puisque en tant que tel, il doit être respecté, certes, mais il doit être respecté dès le commencement de la vie. Et le problème, c'est que comment est-ce que je date le commencement de la vie? Donc pour le droit français, c'est vrai que c'est compliqué de traiter du droit de l'embryon, finalement. Et puis, il y a d'autres arguments de réflexion dans cette réflexion bioéthique, qui sont celles de l'utilité médicale, c'est-à-dire comment est-ce que je dois forcément raisonner en termes d'utilisation thérapeutique, ce que demande actuellement la loi française, est-ce que je dois forcément raisonner en termes de progrès thérapeutique majeur, ou bien est-ce que je peux admettre que, finalement, amélioration de la connaissance, indépendamment de l'utilité que ça peut avoir, est-ce que la connaissance en elle-même peut être un argument suffisant pour autoriser une recherche éventuellement sur l'embryon? Et enfin, ce dont je parlais tout à l'heure, qui est le rôle du projet parental. Alors, voilà. Donc finalement, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Je vais terminer là-dessus. Donc où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? On est actuellement sous le régime des lois de bioéthique. Comment est-ce que finalement la France la loi française a réussi à éventuellement obtenir un consensus, donc à faire une loi, qui sont les lois de bioéthique de 2004, sous le régime duquel on n'est plus d'ailleurs, parce que les lois ont été votées pour 5 ans, le décret ayant été paru en février 2006. Nous sommes maintenant en mai 2011, donc nous sommes dans une situation pour l'instant où il n'y a pas de vide juridique, c'est-à-dire actuellement il n'y a pas de loi. La loi précédente est terminée puisqu'il y avait un moratoire de 5 ans et la prochaine loi n'est pas encore votée. Donc elle va l'être, je pense, d'ici la rentrée de septembre, ou en tout cas avant la fin de l'année. Donc les lois de 2004 qui donc avaient cours jusqu'en février disait en gros que la recherche sur l'embryon est interdite, ça c'est dans la loi, mais que, à titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, il peut y avoir des recherches autorisées sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires par dérogation et pour une période de 5 ans. Donc tous les projets de recherche qui ont été faits en France depuis la promulgation de la loi précédente, le décret d'application de février 2006 jusqu'à maintenant, enfin jusqu'en février dernier, ont dû se conformer à ces restrictions, c'est-à-dire un consentement du couple. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'importance à considérer. comment est-ce qu'on informe le couple de ce qui va être fait avec les cellules qui seront dérivées de l'embryon. C'est quelque chose de très important, ça, en médecine, le consentement du donneur, que ce soit un couple ou que ce soit d'autres adultes pour un don de cellules. Donc, après consentement du couple, et les recherches sont autorisées à condition qu'elles puissent déboucher, permettre des progrès thérapeutiques majeurs. Donc là aussi, qu'est-ce que ça veut dire un progrès thérapeutique majeur? Et qu'il n'y ait pas de méthode alternative à d'efficacité comparable qui puisse permettre de faire progresser la recherche. Or, juste, je vais faire une aparté, c'est que dans le débat actuel de la loi de bioéthique, les personnes qui sont opposées à la recherche sur les cellules souches embryonnaires utilisent effectivement, ont utilisé l'argument de dire nous avons des cellules souches adultes, donc il n'est pas nécessaire d'utiliser des cellules souches embryonnaires puisque d'un point de vue thérapeutique, les cellules souches adultes peuvent être utilisées. Je pense que scientifiquement, cet argument est difficilement tenable. Et il y a une deuxième catégorie de cellules qui, à l'heure actuelle, sont aussi mises en balance pour, vis-à-vis de l'utilisation de cellules souches embryonnaires, qui sont le fait qu'on est capable, à l'heure actuelle, à partir d'une cellule adulte, un fibroblaste de peau par exemple, un globule blanc, de refaire des cellules pluripotentes, d'accord ? Pas des cellules embryonnaires, mais de faire acquérir par une cellule adulte, ce qui est quelque chose de tout à fait fascinant, de faire acquérir par une cellule adulte des propriétés de cellules souches pluripotentes. Donc, on peut rediscuter effectivement, à l'heure actuelle, le fait que nous avons deux types de cellules souches qui sont des cellules souches pluripotentes qui peuvent être éventuellement utilisées d'un point de vue médical, qui sont d'un côté les cellules souches embryonnaires et de l'autre côté les cellules souches reprogrammées. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse dire que ces deux types de cellules actuellement sont équivalents. Donc, voilà les deux restrictions qu'il y avait dans la loi de 2004. Je ne sais pas ce qui sera dans la loi de 2011. Et de toute façon, les protocoles de recherche devaient être soumis à l'Agence de la biomédecine et devaient être autorisés par l'Agence de la biomédecine avant de pouvoir être mis en place. Donc ce qui est interdit par la loi de toute façon, ce qui est interdit, c'est toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante. Ça, c'était la notion de clonage reproductif. Et l'autre notion interdite par la loi française, c'est la conception d'embryons uniquement à des fins de recherche, que ce soit par clonage ou par un autre moyen. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, mais bon, je peux tout à fait